deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, nous pourrions lire le verset 5. Le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Alors la parole de Dieu nous invite très souvent à témoigner. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Témoigner par notre vie, par notre parole, par nos paroles, bien sûr. Elle nous invite aussi à exhorter les frères et les sœurs. Mais dans ce texte, elle nous invite à exercer une activité qui ne concerne pas les autres, mais qui nous concerne tous personnellement. C'est un travail à faire à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes invités à faire en quelque sorte un inventaire spirituel. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et dans Sophonie chapitre 2 verset 1er, il est écrit « Rentrez en vous-même, rentrez en vous-même, examinez-vous. » Vous savez certainement que les commerçants sont tenus de faire au moins une fois par an un inventaire annuel. Bien sûr, l'inventaire de leur stock, l'activité est arrêtée pour éviter les entrées, les sorties de marchandises qui pourraient perturber un peu le bon déroulement de l'opération. C'est ainsi que l'on voit d'ailleurs à la porte de certains commerces fermés pour inventaire. Voilà. Alors c'est pas la peine d'insister. C'est un travail qu'on ne fait pas n'importe comment. On le prépare, on utilise une méthodologie, c'est-à-dire une manière de procéder, une procédure adaptée à l'activité ou à l'implantation de l'entreprise, du commerce. J'ai organisé, j'étais responsable des inventaires pendant un certain nombre d'années dans la société qui m'employait, donc je sais de quoi il s'agit. C'était pas si simple. Mais revenons à notre inventaire spirituel. Vous savez, quand il y a une réelle conversion, une conversion authentique, bien sûr précédée d'une repentance, une vraie repentance, eh bien, le jeune chrétien, il est zélé, rien à faire, il est zélé dans sa relation avec le Seigneur, dans son culte personnel, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, il est zélé dans le témoignage. On a remarqué d'ailleurs que beaucoup de gens qui venaient de se convertir ont amené quantité d'âmes au Seigneur. Eh oui, mais viennent ensuite la pluie, les torrents qui se jettent contre la maison, les vents qui soufflent quelquefois très fort, et puis il y a l'incompréhension de l'entourage, il y a des luttes, il y a des pressions de toutes sortes, il y a les activités de ce monde qu'on pourrait qualifié de chronophage, c'est-à-dire qui nous mange notre temps. Et très souvent, malheureusement, il arrive que la vie spirituelle s'essouffle. Et au bout de quelque temps, ces fringants, nouveau-nés en quelque sorte, perdent un peu de leur feu. Alors s'ils sont honnêtes, ils s'aperçoivent que certaines choses qui devaient s'accomplir, qui s'accomplissaient avant, avec un cœur joyeux, sont devenus une simple habitude, une routine, que le premier amour, il n'est plus là, il est parti, disparu, et que l'amour pour le Seigneur n'est plus la motivation première de leurs actions. Non pas qu'il faut se lamenter continuellement sur la perte du premier amour, la parole de Dieu nous invite au contraire à le retrouver, à le rechercher au pied du Seigneur. Mais c'est bien pour cela qu'il nous faut nous arrêter de temps en temps pour faire un inventaire spirituel. Un inventaire spirituel de nos vies, de nos cœurs. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de vivre dans l'introspection continuelle, c'est-à-dire d'être toujours en train de faire l'inventaire. Nous manquerions à notre vocation. Vous imaginez un commerçant qui serait toujours en train de faire l'inventaire. Il se retrouverait très rapidement en situation difficile au point de vue financier, et même en faillite. S'il n'ouvrait plus pour les clients, qu'est-ce qui se passerait? Bon, nous sommes en effet appelés, non à nous renfermer sur nous-mêmes, mais à être ouverts à ce qui nous entoure, pour qu'au travers de nous, ceux qui nous entourent voient briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'empêche qu'il est nécessaire, de temps en temps, de s'arrêter, de nous interroger, pour nous examiner nous-mêmes, pour rentrer en quelque sorte en nous-mêmes et faire le point de notre vie spirituelle, de faire l'état des lieux. Et ce changement d'année, là, bientôt, on n'avait jamais été si proche de 2013, eh bien, il nous en donne l'occasion. L'occasion de faire le point sérieusement devant le Seigneur. Il est bien rare, à l'examen des résultats d'inventaire, de trouver des excédents dans les stocks. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Oh là là! Au cours d'un exercice annuel, il y a bien des choses qui se passent. La sentence médiévale dit « errare humanum est, perseverare diabolicum ». Donc, tout simplement, l'erreur est humaine, mais la persévérance dans l'erreur est diabolique. Voilà. L'erreur est humaine. Hein, les gens le disent souvent. Mais en plus de l'erreur humaine, il y a tous les malheurs qui arrivent à la marchandise, comme l'avarie, la casse, et puis il y a des personnes mal intentionnées qui ne se gênent pas pour voler. Hein, non seulement à l'intérieur, quelquefois, des sociétés, et aussi, bien sûr, quelquefois, au niveau de la clientèle. C'est vrai que j'ai connu, un temps où je travaillais, j'avais besoin d'un sac de ciment, je me faisais un mot pour un sac de ciment. Je me facturais, quoi, à moi-même. Quand j'allais chercher le sac, le contrôleur me disait, Monsieur Pixel, ça va pas, vous êtes complètement fou, un sac de ciment, voyons. Et oui, pourtant, il s'agissait d'être honnête. Hein, si tout le monde savait faire ça, après, les stocks sont vides, hein. On ne peut rien avant nos clients. Et le Seigneur nous invite à être droit en toutes choses. J'avais d'ailleurs pris la bonne habitude aussi de demander au contremaître de me donner mensuellement la liste des matériaux invendables qui avaient été mis à la décharge. Bien sûr, parce que si on passe au bout d'une année tout ce qui a été cassé, ça fait quand même quelque chose d'important. Alors, il y a des choses dans notre vie qu'il nous faut régulariser. Ne pas attendre, d'ailleurs, de faire un inventaire dans nos vies. Nous avons besoin de les régulariser régulièrement. Parce que c'est des choses qu'il faut régulariser au plus vite. C'est pas normal d'avoir certaines choses dans le cœur, certaines mauvaises pensées contre certaines personnes ou autres. Ce sont des choses qu'il faut régulariser au plus vite. Nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai. C'est vrai, il y a des choses qui sont invendables en nous. Enfin, c'est une manière de parler, hein. Vous comprenez dans le sens. Que Dieu voudrait éliminer de nos cœurs et de nos vies. Bien sûr, Dieu n'attend pas que nous prenions notre parti du fait que nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait, bon, ben, je ne changerai pas, tout va bien. Non, non. Il ne veut pas que nous soyons sans inspiration, sans désir de progression spirituelle. Quelqu'un a dit que Dieu l'avait interpellé de cette manière. Je t'aime comme tu es. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, comme tu es bon, tu es patient, tu es merveilleux. Oh. C'est formidable, Seigneur, tu m'aimes comme je suis. Ah, je reste comme je suis, alors. Non, non. Attendez, je vais vous dire la suite. Je t'aime comme tu es. Mais je t'aime trop pour te laisser comme tu es. Voilà le problème. Mais je t'aime trop pour te laisser comme tu es. Gloire au Seigneur. Non ? Dites pas là. Eh oui. Merci Seigneur de ce que tu m'aimes trop pour ne pas me laisser comme je suis. Nous pouvons donc affirmer que la volonté de Dieu n'est pas que les gens de ce monde voient en nous des choses invendables, en quelque sorte, mais qu'ils voient en nous le fruit de l'esprit, qu'ils voient en nous les fruits de la conversion, de la nouvelle naissance, de notre appartenance à Jésus-Christ, et qu'ils entendent à travers de nous l'appel de Dieu. Parce que le Seigneur les appelle, tous ces gens qui sont dans ce monde. Ésaïe 55.1, vous connaissez ce passage, la traduction Semeur dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. » C'est la grâce de Dieu qui offre toutes ces richesses. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Il est bon que les gens entendent au travers des chrétiens que Dieu leur offre sa grâce et toutes sortes de bénédictions, de richesses spirituel extraordinaire. Nous n'avons rien à voir avec le fonds de commerce du diable, qui n'offre rien de gratuit, ni de bon, ni de saint, pour notre vie présente et éternelle, bien sûr. Nous le savons bien. Nous sommes au service du Seigneur, et voilà là un commerce gratuit. Tout est offert. Voilà des richesses offertes à tous les hommes, quels qu'ils soient. Jésus offre d'ailleurs des choses qu'on ne trouve pas à prix d'argent, bien sûr. Il offre le pardon, il offre le salut, il offre la vie éternelle, il nous offre le repos, etc., etc. Il y a tellement de richesses qui sont offertes à notre foi. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Merci Seigneur. Alors si nous faisons l'inventaire en nous, si nous rentrons en nous-mêmes, nous devrions trouver en nous ces valeurs de pardon, d'assurance du salut, de vie éternelle. Elles sont en nous. Si Christ est en nous, elles sont en nous. Amen. Nous ne devrions pas trouver l'agitation désordonnée de ce monde, mais le repos que Jésus donne à ceux qui vivent en lui. Le repos que Jésus donne à ceux qui vivent en lui. Si nous faisons l'inventaire, nous pouvons trouver ce repos à l'intérieur de nos cœurs, le repos de la foi. Certains, malheureusement, frères et sœurs, alors on peut en parler avec beaucoup de tristesse quelquefois, ont perdu ces valeurs inestimables que Jésus avait mis dans leur cœur. Avec le temps qui a passé tout doucement, ils les ont perdues par négligence. Et quelquefois, elles ont été volées par le brigand. Dérobés parce qu'ils n'ont pas été attentifs, parce qu'ils se sont laissés aller, qu'ils n'ont pas laissé le Seigneur régner sur leur cœur parce qu'ils n'ont vécu que pour eux-mêmes. Jean 10.1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. l'adversaire fait des ravages lorsqu'il entre dans la bergerie. Et nous avons besoin de veiller. Et l'Église de Jésus-Christ, dans ces temps de la fin, a besoin de veiller. L'adversaire n'y entre pas sans être déguisé. Il y entre attifé, habillé de toutes sortes de convoitises, de séductions, pour essayer de tromper les élus. Et nous avons besoin du discernement de l'esprit pour le dévoiler. Il y pénètre insidieusement, sournoisement, pour y déposer, y installer ses pensées mondaines, malsaines, des pensées qui contestent la parole de Dieu, qui sont contraires à l'enseignement divin. Alors nous sommes appelés à faire l'inventaire pour voir si les œuvres du diable n'ont pas quelque peu d'éteint sur nos cœurs. Vous savez, on est surpris quelquefois quand on lit l'Évangile. Avec quelle sévérité Jésus-Christ reprend les hommes religieux de son temps, des hommes qui étaient versés dans les Écritures, qui enseignaient les autres. Hein, il est bon d'en tirer instruction. L'hypocrisie religieuse est insupportable pour le Seigneur. Il dira à ces hommes qui croyaient avoir Dieu pour père, vous avez pour père le diable. Rendez compte. Alors que se consacrait à la lecture, etc., faisait beaucoup de prières, qui avait toutes sortes d'attitudes. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous, de faire des compromis avec le monde, de nous recouvrir de masques, de faux semblants, quelquefois, au lieu d'être vrais aux yeux de Dieu, aux yeux des frères et sœurs et aux yeux du monde? Bon, ça ne servira à rien de montrer aux frères et sœurs que ça va mal quand ça va bien. Ah, il y en a qui le font, hein, pour être plat, quelquefois. Mais ça sert à quoi de montrer que ça va bien quand tout va mal? On est appelé à partager nos fardeaux. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. On n'est pas appelé à les cacher, à les dissimuler. Est-ce que je suis vrai dans toute ma conduite? C'est ce que le Seigneur veut. C'est que nous soyons vrais, sincères, vrais. Nous avons besoin de faire l'inventaire de temps en temps pour savoir si l'esprit du monde nous a pas volé nos richesses spirituelles de vérité, de justice et quelquefois même d'assurance du salut. Le monde dans lequel nous vivons n'est fait que de tromperies, d'égoïsme, d'individualisme. Le psaume 62, au verset 9, il est écrit « Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. » Vous vous rendez compte ? Il y a une ancienne et très vieille version qui a traduit cela ainsi. Qui l'homme et le rien pèserait. C'est-à-dire l'homme dans un plateau, et puis rien l'autre. Hein ? Vous voyez bien. Par cette épreuve, il trouverait que l'homme est plus léger encore que le rien. Ah, il y a dans ce monde des personnalités. Au niveau de la politique, au niveau du spectacle, du cinéma, je ne sais pas quoi, de la chanson, du sport, etc. Tout ce que vous voudrez. Hein. C'est d'ailleurs dommage quand on trouve toutes ces images dans les maisons des chrétiens. Bon, enfin, c'est autre chose. Mais des gens qui sont adulés, admirés par les foules, mais qui devant Dieu ne pèsent rien. Ils sont rien. Parce qu'il leur manque l'essentiel. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Christ dans leur vie. Alors si nous faisons l'inventaire de notre nature humaine, notre nature adamique, nous n'allons trouver rien de bon aux yeux de Dieu. La parole de Dieu est catégorique d'ailleurs, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dès le moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons fait cette expérience de nouvelle naissance avec le Seigneur, que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ, nous allons trouver dans notre inventaire des valeurs extraordinaires. Nous allons trouver de l'or, de l'argent, etc., etc. Toutes ces richesses nous viennent de Dieu. Mais elles peuvent être mélangées avec la boue. La boue du péché, quelquefois. Je ne sais pas, vous avez certainement tous vu comment travaillaient les chercheurs d'or. Certainement à la télévision, au moins que vous soyez allé dans des endroits où on cherche de l'or. Ces gens-là, vous savez, ils ont les pieds dans l'eau, là. Et puis, ils ont une espèce d'appareil, une battée, un genre de battée, une espèce de chapeau chinois, vous savez, dans lequel ils remuent d'une certaine manière pour évacuer ce qui n'est pas bon là-dedans, quoi. Parce que le chercheur voit en premier, c'est pas la pépite d'or. Ce qu'il voit en premier, c'est la boue, la terre, les gravillons. Alors il est obligé d'agiter le tamis pour que les impuretés disparaissent et laissent apparaître ce qu'il y a de la vraie valeur, ce qui est une vraie valeur. Ce qui est merveilleux, vous voyez, c'est que la battée, en quelque sorte, ou le chapeau chinois, ou certains l'appellent le tamis, mais c'est pas tout à fait juste, pas tout à fait ça. Mais enfin, c'est Dieu qui le tient. C'est Dieu qui le tient dans ses mains. Dieu tient la battée dans ses mains, la battée de notre vie. Hein? Alors, quelquefois, bien sûr, il arrive, il la secoue un peu, pour que les impuretés disparaissent, et pour que l'or apparaissent. Hein, nous disons que Jésus-Christ vit en nous, oui, bien sûr. Mais il ne peut pas y avoir de mélange dans nos vies, c'est pas normal. Le Seigneur va travailler pour éliminer certaines choses, bien sûr. Et pour ce qui est pur, ce qui est parfait, apparaisse. Bien sûr, quelquefois, il peut y avoir des mélanges, du ressentiment, de la haine même chez certains, tout un tas de choses mauvaises, malsaines, que Dieu n'approuve pas, mais tout ça, il faut que ça dégage. Alors, quelquefois, il est obligé de secouer la battée, secouer un petit peu notre vie. C'est quelquefois douloureux. Non, croyez pas, ça ne vous est jamais arrivé. Il peut arriver que nous ressentions même un sentiment d'injustice. Pourtant, les compassions divines sont immenses. Qui pourrait en douter ? Qui pourrait douter que les compassions de Dieu sont immenses ? Personne. Personne au niveau des chrétiens. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelle affirmation merveilleuse. Merci Seigneur. Le Seigneur prépare son Église pour le jour des noces. Ils ont parlé il n'y a pas longtemps. Et il veut lui enlever les vêtements sales et la revêtir d'un vêtement de fête. Il veut la guérir pour qu'elle soit forte afin de refléter sa gloire. Notre Père ne veut pas trouver en nous un cœur partagé car il est un Dieu jaloux. Il nous veut tout entier à lui, mais que lui apportons-nous ? Qu'avons-nous à lui apporter dans notre inventaire spirituel ? Qu'avons-nous à lui apporter ? Bon, déjà, il n'est pas possible d'apporter au Seigneur ce que nous n'avons pas reçu de sa main. En ce qui concernait l'offrande, David pouvait dire, nous recevons de ta main ce que nous offrons. Hein? Tout appartient à Dieu. Et nous sommes appelés à lui appartenir entièrement, totalement. 1 Corinthiens 4, 7 dit d'ailleurs, car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il y a des gens qui se glorifient de beaucoup de choses, vous savez. Voilà. C'est mauvais, ça. On est appelé sûrement à donner gloire au Seigneur. À donner gloire au Seigneur en toutes choses et pas à nous glorifier de ce que nous avons fait. L'apôtre le disait, c'est la grâce qui agit en moi. C'est pas moi, c'est la grâce. C'est le Seigneur qui agit dans nos cœurs, c'est lui qui fait l'œuvre. C'est pas nous directement. Il suffit simplement que nous apportons un esprit de bonne volonté, soumettions à sa volonté. Alors, le problème, c'est lorsque notre louange et notre offrande est arrosée de vinaigre, pour Dieu, elle devient irrecevable. Imaginez si quelqu'un vous offre, je sais pas quoi, un verre de bon vin, vous allez manger chez lui, et qu'il mette une bonne ration de vinaigre dedans, c'est pas buvable. C'est pas buvable. C'est l'image, ça, d'une vie partagée. C'est l'image d'une vie partagée. Et ça, pour Dieu, c'est irrecevable. On peut faire des belles paroles de louange, de choses. Seigneur, regarde l'état de nos cœurs. Si c'est un cœur partagé, il y a du vinaigre dedans, ou il y a quelque chose qui n'est pas bon. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il demande ? Il veut le tout de notre vie. Il n'en veut pas à 50%. Relisez la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas à 50%. Il veut tout. Il s'est donné entièrement au Seigneur. Il ne s'est pas donné à moitié sur la croix. Pas une moitié qui sur la croix, puis l'autre moitié qui ne l'était pas. Il s'est donné entièrement. De Corinthiens 5,15, il est mort pour tous. Pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi on en garde une partie, nous? Pourquoi on en garde une partie? Dans notre inventaire spirituel, il serait anormal de ne pas trouver de parfum. De Corinthiens 2,15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. La bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ dans ce monde. Pas un jour par semaine, pas une heure de temps en temps, c'est 24 heures sur 24. Quel privilège! Est-ce que nous le réalisons bien, cela? Nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, mais nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Pour Dieu! D'abord, en premier, quelle responsabilité. C'est beau, hein, de le réaliser. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Attendez. Nous, des petits bons hommes, des bonnes femmes, excusez-moi, nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. C'est le Saint-Esprit, le souffle qui met en nous les parfums du divin époux. Divine époux, voilà, mieux. C'est le souffle, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle sur nous et met en nous les parfums de l'époux divin. Et comme le disait un chant, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon Sauveur vous aime, ah, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Il y a lieu de s'inquiéter, par contre, si dans notre inventaire spirituel, nous ne trouvons pas en abondance ces trois choses qui demeurent, et que vous connaissez très bien, la foi, l'espérance et la charité. Elles doivent habiter, demeurer abondamment dans chacun de nos cœurs. Il faudrait peut-être nous poser quelques questions. Quelles sont dans cette vie mes priorités? Quelles sont mes priorités? À quoi je donne la priorité? Est-ce que Jésus a la première place? Quel temps je consacre à mon Seigneur? Quel temps je consacre à mon Seigneur? Et quel temps je consacre aux choses vaines, inutiles? Quel temps je consacre à mon Seigneur? Et quel temps je consacre aux choses inutiles et vaines? Suis-je à l'écoute de Dieu? Ou à l'écoute de moi-même? Est-ce que je décide sans demander au Seigneur sa volonté? Au moment de commencer une nouvelle année, je crois qu'il est bon, en comptant sur la grâce de Dieu, bien sûr, en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur le secours du Saint-Esprit, pas en comptant sur nos propres forces, mais de décider de changer, de modifier certains de nos comportements. Est-ce que nous n'avons pas des comportements à changer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans nos vies? Il faut que nous soyons tout entiers au Seigneur et que nos vies exhalent réellement le parfum. Alors, faisons l'inventaire, posons-nous des questions, mais posons-les-nous devant le Seigneur et devant sa parole. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, demandons au Seigneur de nous aider à modifier nos comportements, à nous changer, à nous aider à avoir vraiment ce cœur bien disposé, afin qu'il accomplisse en nous, par son esprit, cette œuvre de sanctification à sa gloire. Que le Seigneur nous aide.